C'est Jocelyne Allaire qui va parler sur la politique, sur le durcissement dans la politique sociale. Et hop, Jocelyne, à toi la parole.
Oui, merci. Parler en 10 minutes de la répression dans les politiques sociales, c'est vraiment un exercice particulièrement difficile. Donc si jamais, n'hésitez pas à m'arrêter parce que j'ai tendance à être intarissable sur le sujet. Pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, parce que Aldo a mentionné ce passage entre l'accompagnement par les travailleurs sociaux, les requérants d'asile, à la police privée, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur comment on a transformé les travailleurs sociaux, quelque part, en auxiliaires d'une politique de répression. Alors, sans revenir sur les causes de la pauvreté, ni sur les facteurs qui aujourd'hui favorisent l'accroissement de la précarité et de la pauvreté, j'aimerais revenir peut-être sur 2-3 éléments que je vais essayer de développer ici. Tout d'abord, peut-être vous rappeler quelque chose. À Genève, on a connu dans les années 90 toute cette entreprise d'audit de l'État, cette réforme de l'État qui a valu à Genève le rapport Andersen, qui a jeté les bases d'une nouvelle définition du rôle de l'État et de comment on allait répondre aux besoins sociaux. Juste en ce qui concerne la politique sociale et l'aide sociale, vous rappelez quand même qu'à l'époque, le rapport l'audit Andersen préconisait la création d'un office cantonal payeur unique, c'est-à-dire une réponse financière à la pauvreté et non plus un accompagnement ou un travail sur les causes de la pauvreté ou le retour à l'autonomie, et par ailleurs de renvoyer sur le privé, sur le caritatif, l'accompagnement dont les gens auraient pu avoir besoin. À l'époque, on a cru, en ne donnant pas immédiatement suite au rapport Andersen, que la chose avait été écartée et que nous étions hors de danger. Or, il faut bien mettre en lien ce que nous vivons aujourd'hui en matière de politique sociale avec ce qui s'est écrit en 97 avec le rapport Arthur Andersen. Sur la question de l'augmentation de la pauvreté et de la précarité, il faut quand même considérer la manière dont on a cassé les solidarités. Toute la rhétorique autour des abus, la manière dont on a différencié les individus, comment on les a catégorisés, et qu'on a fait en sorte non seulement qu'ils soient désignés soit comme coupables, soit non méritants, soit incapables, faisait que finalement ils avaient des droits différents. Si vous regardez la problématique des minima sociaux, vous vous rendez compte qu'à minimum vital, on considère que pour des catégories de personnes différentes, leurs besoins minimaux vitaux sont différents. Ainsi, on peut admettre, sans aucun état d'âme, à Genève, qu'un requérant d'asile a moins besoin pour manger qu'un étranger ou un résident suisse confédéré domicilié sur le canton. Pour l'un, on considère qu'il doit manger avec 451 francs par mois. Pour l'autre, on considère que c'est avec 960, voire 1260, pour autant qu'il ait été légèrement méritant. Ça montre bien comment, en cassant les solidarités, en catégorisant les personnes, on définit des droits différents, mais surtout, on évite que se construise une dynamique de reconquête des droits sociaux qui soit collective et qu'on puisse changer cette situation. Cela étant par rapport à 2-3 choses qui ont été évoquées tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment agir, j'aimerais quand même vous donner mon sentiment, parce qu'il est quand même relativement douloureux et qu'à chaque fois, il me remonte assez fort au fond de l'estomac, c'est que la pauvreté, la précarité et l'injustice, tout le monde s'en fout. Et qu'aujourd'hui, au niveau des partis qui devraient lutter contre ces éléments-là, eh bien, il y a un grand silence et qu'il est extrêmement difficile de se faire entendre. Et si au terme d'aujourd'hui, de ce débat, on devait dire quelles seraient les pistes d'action sur lesquelles on pourrait éventuellement se mettre d'accord et s'engager, il faudrait quand même prendre en considération cet élément-là, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout et que ceux qui, normalement, devraient saisir ces causes-là et aller les porter là où on peut agir, aujourd'hui sont terriblement absents de cette scène. Un autre élément sur lequel j'aimerais insister, c'est notamment comment, à un moment donné, après avoir cassé les solidarités, après avoir instauré véritablement dans la conscience collective la notion des abus et toute la rhétorique des abus, on a pu entrer dans le vif du sujet et transformer les lois et transformer les pratiques sociales. Alors, sans aucune ingénuité, Le travail social a toujours été empreint d'une dynamique de contrôle social. Ça, personne ne le nierait, et les travailleurs sociaux encore moins que les autres. Néanmoins, il y a une vingtaine, trentaine d'années, par les travailleurs sociaux de l'intérieur, était monté un mouvement qui tendait à définir le travail social plutôt comme un instrument d'émancipation et de lutte contre les inégalités, plutôt que simplement un élément de régulation sociale. Or, ce qu'on constate, c'est que depuis bientôt une décennie, on a transformé les valeurs de référence des travailleurs sociaux, on les a empêchés de réfléchir leur travail, on a injecté de pseudo-nouvelles valeurs qui, à l'instar de la novlangue, définissent de nouveaux contenus. Ainsi, finalement, on arrive à faire en sorte qu'aujourd'hui, peu de travailleurs sociaux s'inscrivent en faux contre les politiques sociales qui sont menées par les institutions, mais surtout les institutions au service d'un projet politique qui est celui qu'on voit se mettre en œuvre à Genève aujourd'hui. Un des éléments les plus marquants peut-être de cette politique de répression qui aujourd'hui est en œuvre dans le travail social, c'est la modification de la loi sur l'aide sociale individuelle. Auparavant, nous avions une loi sur l'assistance, qui était une loi d'assistance publique, avec autant de connotations lourdes que peut avoir l'assistance publique, mais qui était une manière de donner aux gens les moyens de subvenir à leurs besoins vitaux et de mettre en place un accompagnement qui leur permettait de recouvrer une certaine autonomie. Or, aujourd'hui, après cette mutation de cette loi en 2006, donc la chose est relativement récente, on a conceptuellement bouleversé cette notion d'aide sociale et cette notion aussi de couverture des besoins vitaux. Comment ? Simplement en instaurant une espèce d'aide sociale à deux vitesses, c'est-à-dire que vous avez dans le minimum vital un premier montant qui vous est acquis à partir du moment où vous êtes réputé être en besoin d'aide sociale, et une partie qu'on a enlevée de l'ancien montant qui, elle, est soumise à conditions de mérite. Ainsi, auparavant, l'aide sociale, qui se compose du loyer, de la caisse maladie et d'un montant pour l'entretien, si je prends ce dernier montant pour l'entretien, auparavant c'était 1260 pour une personne seule. En 2006, le politique a décrété que c'était plus 1260, mais 960 francs. Et que les 300 francs de différence pouvaient être acquis pour autant que la personne atteigne un objectif dont elle aurait convenu avec l'assistance sociale dans le cadre d'un projet social d'autonomisation. Or, on n'a jamais autant parlé d'incitation à l'insertion professionnelle, de retour au travail que depuis qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde. Et en 2006, plus encore qu'auparavant. Or, cette loi se base sur le concept d'incitation, comme si le fait d'être dans la pauvreté, d'être en difficulté, n'était en soi pas suffisamment incitateur pour essayer de demander autre chose et d'essayer de s'en sortir, il fallait en plus qu'on vous file des coups de pied au derrière par cette espèce de chantage, hein, cette logique du bâton et de la carotte, pour que vous ayez envie de vous en sortir. Ça a été concrètement le premier pas vers cette politique d'incitation et cette politique de répression, parce que finalement, si les gens ne faisaient pas ce qu'on attendait d'eux, eh bien, ils voyaient leur minimum vital réduit de 300 francs. Parallèlement, s'est instaurée, mais de manière tout à fait insidieuse, une espèce de logique sanction, félicitation, bâton, carotte, dans les rapports travailleurs sociaux et usagers de l'aide sociale. Et finalement, on est arrivé à une situation où la personne doit se conformer plus que jamais à ce qu'on attend d'elle pour qu'elle puisse bénéficier en plein du peu que la société est prête à lui donner. Ce faisant, on s'achemine quand même de manière insidieuse vers la rente sociale, c'est-à-dire le salaire d'exclusion. Il faut savoir que, et c'est assez pernicieux, que parallèlement à cela, le système des sanctions s'est perfectionné. Hormis le fait d'avoir la possibilité de ne pas remettre ce fameux forfait d'intégration, vous entendez bien ce que ça suppose.
Merci.
Forfait d'intégration, la politique des sanctions s'est mise en place. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'Hospice général a découvert qu'il pouvait ou il devait sanctionner les gens qui ne faisaient pas suffisamment d'efforts pour se réinsérer. Donc, hormis la possibilité d'avoir 300 francs en moins, les gens, s'ils étaient jugés pas suffisamment motivés pour essayer de s'en sortir, pouvaient avoir une sanction qui correspondait à une diminution de moins 15% de ces 960 francs. Ça veut dire 144 francs en moins. Et s'ils étaient accusés d'une faute grave, c'est-à-dire, je ne sais pas, de paresse systématique ou de non-volonté de collaboration, eh bien, ils pouvaient être réduits à l'aide au minimum vital absolu. Rappelez quand même que le minimum vital absolu, c'est le minimum vital des requérants d'asile. Donc, ce qui est la sanction pour les uns est ce qu'on prétend octroyer généreusement aux autres. 451 francs. Cela étant, hormis le système des sanctions, et on voit bien que, comme on n'a pas grand-chose à offrir aux gens, ils deviennent seuls responsables de leur réinsertion ou de leur autonomisation. Et c'est sur leurs efforts et leurs efforts seuls qu'on juge la manière dont ils se réinsèrent. À aucun moment on ne questionne ou on ne sanctionne la société qui ne leur donne aucun moyen de se réinsérer aujourd'hui. Le comble, je vais en terminer, le comble quand même, c'est le lien qui est fait aujourd'hui entre les institutions. Alors, je ne parlerai pas de la collaboration interinstitutionnelle parce que c'est quelque chose de particulièrement tordu et qui mériterait en soi un débat. Cela étant, on a établi aujourd'hui, on a facilité les collaborations entre différentes administrations publiques de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'aider l'administré ou l'usager, mais c'est une manière de mieux le contrôler, de mieux le cerner et de faciliter le passage d'informations d'une administration à une autre. L'exemple le plus frappant est celui qui aujourd'hui se pose au travers de l'assurance chômage. L'assurance chômage dont on a bien vu combien, au fil du temps, les prestations se sont réduites. Et vous le savez, aujourd'hui, il y a un référendum contre la loi fédérale. Et il y aura demain aussi, j'espère, un référendum contre la modification de la loi sur l'aide sociale individuelle et la suppression du RMCS. Mais donc, cette collaboration Hospice Général Chômage fait simplement en sorte que, lorsque quelqu'un a été sanctionné au chômage parce qu'il n'avait pas, soi-disant, répondu aux exigences du chômage, eh bien, il est sanctionné quand il est renvoyé sur l'aide sociale. C'est le principe de la double peine. Vous avez été non seulement sanctionné dans le système qui estime que vous êtes en défaut, mais vous êtes sanctionné automatiquement, systématiquement, dans le système suivant dans lequel vous êtes renvoyé. Ce qui est gravissime, c'est que ce système de la double peine, la commission du personnel auquel j'appartiens l'a dénoncé dès son établissement, ne serait-ce que pour le simple fait qu'en tant que travailleur social, souvent nous sommes nous-mêmes amenés à aider les gens à faire recours contre la sanction qu'ils ont subie. Donc il était évident qu'on n'allait pas les sanctionner une nouvelle fois. La chose a été établie et pour les travailleurs sociaux qui n'ont pas été, je dirais, formés à cette approche-là du travail social, mais qui ont intégré la logique de la procédurisation de l'aide sociale, eh bien, c'était une chose assez naturelle. Eh bien, aujourd'hui, finalement, l'Hospice Général se rend compte qu'il n'y a aucune base légale pour justifier cette double sanction, et M. Longchamp est en train de déposer en catastrophe un projet de loi pour légitimer une pratique inique qu'il avait imposée aux travailleurs sociaux. Donc, simplement pour dire qu'aujourd'hui, cette logique de la sanction et de la répression, mais aussi le contrôle des populations, parce que ce qu'il faut bien dire quand même, je suis désolée, je prolonge un petit peu, c'est que tout ça ne sert qu'à obliger les gens à rentrer dans le moule. Et quand on voit cette collaboration Hospice Général Chômage, c'est bien pour amener les gens à accepter n'importe quel emploi, à n'importe quel prix, et que là, on accrédite toute la politique de sous-enchère salariale qui est en fait la politique de Longchamp en ce moment, en matière de chômage, mais aussi d'aide sociale. J'ai raccourci, je suis désolée, il y a encore plein de choses à dire.
Que c'est un sujet mais tellement c'était... vaste.
Merci à Jocelyne.
Merci surtout de son caractère extrêmement...